Vous écoutez les dossiers du FBI. Règlement de compte. Deuxième partie.
Au début des années 90, le FBI, la brigade des stupéfiants et les autorités de la Floride tentaient d'arrêter le vendeur de drogue et présumé meurtrier Jeff Matthews. Depuis 1988, on le soupçonnait d'avoir été impliqué dans 4 meurtres dans le secteur de Fort Myers. Pour Tom Continos, détective au service des homicides de Lee County, ainsi que pour une douzaine d'autres agents, le manque de preuves et de témoignages valables les empêchait d'atteindre Matthews.
2 ans se sont écoulés sans que je puisse mettre le grappin sur Jeff Matthews. Je n'avais aucune piste. J'allais de cul-de-sac en impasse. J'étais toujours persuadé que Jeff était notre principal suspect. Et dans l'intervalle, celui-ci était devenu de plus en plus puissant et de plus en plus audacieux dans ses activités criminelles à Fort Myers Beach. La situation était exaspérante.
Le 12 février 1990, devant les preuves indirectes que lui avaient présentées les détectives, un juge accepta d'accorder un mandat de perquisition de la pizzeria de Matthews, le présumé quartier général de ses opérations. Les policiers se présentèrent sur les lieux après les heures d'ouverture pour éviter de mettre les clients en danger. Ils y recueillirent, entre autres documents, des relevés téléphoniques et des relevés bancaires, ainsi que des relevés de cartes de crédit. Ils confisquèrent également la transam de Matthews. On compara ensuite les sculptures de ses pneus à celles recueillies sur une des scènes de crime, mais les résultats furent négatifs. À l'étage au-dessus de la pizzeria, les enquêteurs fouillèrent l'appartement où, disait-on, Matthews restait parfois avec sa petite amie. Le couple n'était pas là. L'équipe ne trouva pas de traces de cocaïne, mais il y avait cependant des cartouches de calibre 357 à la pointe argentée, de l'argent liquide, d'autres relevés téléphoniques et, plus important encore, des balles de calibre 22 comme celles trouvées lors des 3 des 4 homicides dont Matthews était soupçonné. On envoya les projectiles au laboratoire balistique pour les comparer à ceux recueillis dans le corps des victimes. On analysa la composition de ces projectiles, mais on ne put établir de parenté entre eux et ceux qu'on avait. C'était une autre impasse dans cette affaire de plus en plus désespérante. Bien qu'on n'eût aucune preuve formelle contre le présumé narcotrafiquant, l'agent Dennis Bollum de la brigade des stupéfiants et son équipe étaient persuadés qu'ils avaient assez d'indices pour faire inculper Jeff Matthews et ses complices comme membres d'un réseau de crimes organisés.
Nous étions préoccupés du fait qu'il soit encore en liberté et du risque qu'il commette d'autres meurtres. Nous nous sommes dit que nous avions peut-être assez d'indices pour obtenir un mandat d'arrestation. Quand nous l'avons enfin obtenu, nous sommes allés l'arrêter.
Mais Matthews était introuvable. Ses amis et collègues de travail déclarèrent qu'il avait quitté Fort Myers sans dire où il allait. Sa petite amie, dont le nom figurait également sur l'acte d'accusation, accepta de coopérer avec les enquêteurs et de les aider à trouver le fugitif. Elle appela Matthews sur son téléphone portable. L'appel était enregistré. Mais le présumé meurtrier refusa de préciser où il se trouvait. Elle lui dit qu'elle était inquiète au sujet des actes d'accusation. Matthews lui promit alors de trouver qui parlait aux autorités et de les éliminer purement et simplement. Il raccrocha quelques secondes plus tard. Le lendemain, un informateur qui tenait à conserver l'anonymat fournit au détective de Lee County une piste prometteuse. Selon lui, Matthews avait loué une voiture à l'aide d'une carte de crédit empruntée le soir du meurtre de Stephen Franken. Par la suite, un expert judiciaire put comparer les sculptures des pneus de la voiture de location en question au moulage de plâtre effectué sur la scène du meurtre. Les deux étaient identiques. C'était la première preuve tangible entre Matthews et l'un des 4 homicides. Malheureusement, cela ne prouvait pas que c'était lui qui avait conduit cette voiture jusqu'à la scène du crime, ni qu'il avait fait feu sur la victime.
On a tenté de recueillir le plus d'informations possibles sur Matthews.
Détective Tom Continos.
Mais on n'a même pas réussi à savoir où il demeurait. On nous avait dit qu'il vivait dans telle grosse maison et qu'il possédait telle sorte de voiture, mais tout ça n'aboutissait jamais à quelque chose de valable. On ne parvenait pas à le coincer. Tout ce qu'on savait, c'était qu'il conduisait une Transam noire, mais ça ne valait rien. Il était comme partout et nulle part à la fois.
Puis, le soir du 16 mars 1990, des détectives de Lee County furent dépêchés à la maison d'un inspecteur du service des incendies de Fort Myers Beach. Quelqu'un avait lancé dans son allée un tube explosif rempli de balles de calibre 38. L'explosion avait projeté des munitions et des éclats dans la voiture et la maison de l'inspecteur. Elle avait également endommagé son cabanon et la maison du voisin. Heureusement, il n'y avait pas eu de blessés. L'inspecteur déclara qu'il n'avait pas la moindre idée de la personne qui avait pu lui en vouloir à ce point. Les détectives lui demandèrent alors de leur donner la liste des commerces inspectés récemment dont les installations ne correspondaient pas au règlement en vigueur. Un de ces commerces attira l'attention des enquêteurs.
Je me suis rendu sur la scène du crime et j'ai appris que l'inspecteur d'incendie avait visité le restaurant de Matthews. Son rapport, relativement aux dispositions anti-feu du commerce, n'était guère positif. Quand j'ai su ça, j'ai dit « c'est sans doute Jeff qui envoie un message à cet homme ».
Mais si c'était Matthews, il n'avait laissé aucune trace de lui sur les lieux. Tout ce dont les policiers disposaient, c'était le témoignage incomplet d'un voisin. Celui-ci avait entendu un crissement de pneus juste avant l'explosion. En regardant par la fenêtre, il avait aperçu une voiture blanche à haillons partir à vive allure. Comme il faisait nuit, il n'avait pas pu distinguer le numéro de la plaque d'immatriculation. Si Matthews avait été mêlé à cette affaire, il avait changé de méthode d'action, comme nous l'explique Tom Continos.
Je me rappelle avoir remarqué que Jeff n'opérait plus de la même façon. Jusque-là, il s'en prenait aux vendeurs de drogue, mais depuis peu, il s'attaquait aussi aux représentants de l'autorité, comme cet inspecteur du service des incendies. Ce n'était plus la même chose.
Le détective ne rentra chez lui qu'après minuit. Il espérait avoir quelques bonnes heures de sommeil devant lui. Mais à 2 heures du matin, le bruit d'une explosion le fit se précipiter à sa fenêtre.
On aurait dit le bruit d'un transformateur qui saute, ou encore celui d'une voiture qui a dératé, ou d'un feu d'artifice. Plusieurs choses pouvaient avoir causé cette détonation. Le téléphone s'est mis à sonner 2 ou 3 minutes plus tard. C'était un de mes collègues de la brigade des stupéfiants m'appelant pour me dire qu'il y avait eu une explosion à l'immeuble de la brigade.
Le bâtiment ne se trouvait qu'à quelques minutes de la maison du détective.
Je suis arrivé le premier sur la scène et j'ai vu l'immeuble de la brigade des stupéfiants au milieu de flammes qui s'élevaient à plusieurs centaines de mètres. C'était une vision d'apocalypse.
Les enquêteurs soupçonnèrent immédiatement le fugitif Jeff Matthews. C'était la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un bureau de la brigade des stupéfiants faisait l'objet d'un attentat à la bombe. 30 pompiers luttèrent contre l'incendie pendant près d'une heure. Des dizaines d'agents, de policiers des 6 comtés voisins furent appelés à l'aide. L'agent du FBI, Guy Notley, était sur les lieux lui aussi.
Quand je suis arrivé au matin de l'explosion, soit le 17 mars, les agents de la brigade des stupéfiants m'ont dit que le suspect était vraisemblablement un individu contre qui ils avaient porté une accusation 2 jours plus tôt, soit Jeff Matthews.
S'il s'agissait là du travail de Jeff Matthews, la violence de ce narcotrafiquant avait atteint des sommets inquiétants. Quand les autorités policières sont la cible d'un criminel, nul n'est à l'abri. Et Matthews courait toujours. Le le 17 mars 1990, soit deux jours après l'émission de l'acte d'accusation à l'endroit du présumé meurtrier et narcotrafiquant Jeff Matthews, le bureau de la brigade des stupéfiants de Fort Myers Beach en Floride avait fait l'objet d'un attentat à la bombe. Les agents soupçonnaient Matthews d'en être l'auteur, mais le fugitif était toujours introuvable. Le FBI et le détective Tom Continos de Lee County croyaient aussi qu'il était responsable d'une autre attaque à la bombe quelques heures plus tôt.
Selon toute vraisemblance, le tube explosif lancé contre la maison de l'inspecteur quelques heures plus tôt était une manœuvre de diversion.
Détective Tom Continos.
Pour obliger les patrouilleurs à quitter le secteur du bureau de la brigade des stupéfiants et permettre à Matthews de lancer sa bombe incendiaire.
À l'aube, ce matin-là, tout l'immeuble n'était plus que ruine carbonisée. Les enquêteurs se mirent à la tâche pour faire l'inventaire de ces ruines, déterminer ce qui était arrivé et trouver des indices avec l'espoir d'identifier le coupable. L'agent spécial Guy Notley du FBI appela alors en renfort des experts de son bureau.
Nous avons demandé à quatre de nos experts en explosifs du laboratoire de Washington, de même qu'à des agents de la division de Tampa, de mener cette enquête.
Les experts en conclurent que l'incendie avait été causé par un tube explosif attaché à deux bidons d'essence d'une capacité de 20 litres chacun qu'on avait lancé à travers une fenêtre. La bombe s'était retrouvée dans le bureau de l'agent Dennis Bollum, ce qui n'était pas du tout un hasard, à son avis.
Je crois que Jeffrey Matthews essayait ainsi de détruire les preuves que nous avions contre lui. J'avais d'ailleurs rangé le dossier de Jeffrey Matthews dans un classeur juste à côté de la fenêtre. Étonnamment, la bombe a frôlé le classeur, mais le dossier n'a pas été touché, notamment les cassettes d'enregistrement, les notes manuscrites, etc.
En raison de l'heure de l'explosion, il n'y eut aucun blessé, mais on estima les dommages à 4 millions de dollars. En se basant sur les informations fournies par quelques rares témoins, les enquêteurs purent élaborer un scénario de ce qui s'était vraisemblablement produit. On ignorait combien de personnes faisaient partie du coup. Mais des voisins n'avaient toutefois entendu qu'une seule voiture arriver et qu'une seule portière s'ouvrir puis se refermer. Pour les enquêteurs, les personnes responsables de l'explosion avaient sans doute arrêté leur voiture près de l'immeuble pour pouvoir s'enfuir le plus rapidement possible. Cet attentat à la bombe a profondément affecté les membres des forces policières du comté.
J'ai été en état de choc, et puis j'ai commencé à sentir la colère monter. J'étais plus déterminé que jamais à le coffrer. Cela a changé ma vie, parce qu'à partir de ce moment-là, le procureur, d'autres agents, ainsi que moi-même, devions être surveillés 24 heures par jour. J'avais une femme et deux jeunes enfants qui devaient absolument être protégés. Et je savais qu'il était toujours en liberté et qu'il pouvait refaire ce qu'il avait fait n'importe quand.
Les experts du FBI examinèrent ce qui restait de la bombe. On avait mis des clous à l'intérieur d'un tuyau de métal de 10 cm de long et dont le filetage était unique. Les clous étaient entourés de poudre explosive. Le tuyau était retenu avec du ruban adhésif à deux bidons d'essence, ce qui avait permis aux flammes de se propager lors de l'explosion. Cent agents de la brigade des stupéfiants se joignirent aux recherches. Le bureau du FBI, où travaillaient normalement quatre agents, dut accueillir plus de 50 nouveaux employés. Les enquêteurs tentèrent de découvrir à quel endroit avaient été achetés les matériaux utilisés pour fabriquer la bombe. Des équipes d'agents se rendirent dans toutes les quincailleries et les stations-service de la grande région de Fort Myers. Le tuyau utilisé dans la bombe avait un filetage très particulier. On put retrouver le commis qui avait vendu cet objet inusité seulement quelques jours avant l'explosion. Il identifia Matthews comme étant celui qui l'avait acheté. Les agents interrogèrent ensuite des dizaines d'employés de stations-service afin de voir si l'un d'eux se souvenait d'un client qui aurait acheté deux bidons d'essence au cours des dernières semaines. Un homme déclara avoir servi un individu peu de temps auparavant dont la description correspondait à celle de Matthews. Les indices s'accumulaient contre le suspect, même si les agents n'avaient toujours pas la moindre idée de l'endroit où il se trouvait. Ils interrogèrent les amis et les complices de Matthews afin de savoir avec qui il avait été en contact. Une femme déclara avoir reçu une lettre de lui, la suppliant de ne pas croire tout ce qu'on écrivait sur lui dans les journaux. Il ne l'avait toutefois pas convaincue. Elle accepta qu'on installe un dispositif sur son téléphone pour retracer un appel éventuel de Matthews.
Il se déplaçait constamment.
Agent spécial Denis Bolom.
Nous avons donc utilisé un appareil pour le retracer. Nous savions qu'il communiquait à l'aide d'un téléphone portable et nous avions l'intention de déterminer avec précision à quel endroit il se trouvait.
Un mandat signé en main, les agents se rendirent à l'entreprise qui fournissait les services de téléphone à Matthews. S'il se servait de son appareil, une tour capterait l'appel. Et c'est ce qui se produisit. Les autorités furent avisées que le suspect se trouvait toujours en Floride.
Nous avons établi un réseau de surveillance aérienne près d'Orlando, où il avait utilisé son téléphone portable. S'il se servait à nouveau de son appareil, nous pourrions l'arrêter rapidement.
Malheureusement, on ne pouvait réduire la zone de provenance des appels de Matthews à moins de 3 km de l'endroit précis d'où il appelait.
Je savais qu'on finirait par l'arrêter. Il était trop actif et trop violent. Mais ce qui m'inquiétait, c'était le prix que nous aurions à payer avant de l'arrêter. On ne savait pas combien de temps cela prendrait, ni le nombre de victimes qu'il y aurait peut-être encore. C'était ce qui me préoccupait le plus.
Les enquêteurs eurent alors une information d'un agent immobilier. Celui-ci disait avoir loué une maison à Jeff Matthews du temps où il n'était pas un fugitif recherché. Dans la maison, on trouva notamment du ruban adhésif et des sacs provenant d'une quincaillerie qui pouvaient être reliés à l'attentat à la bombe. Les experts trouvèrent également quelque chose qui était, sans contredit, relié au crime de Matthews, comme l'agent Denis Bolom de la brigade des stupéfiants nous le raconte.
C'était un mot adressé au bureau du shérif de Lee County. Je ne me rappelle pas les termes précis, mais en substance, c'était quelque chose comme « vous ne m'attraperez jamais ».
Les enquêteurs étaient de plus en plus résolus à trouver le suspect avant qu'il ne commette d'autres meurtres. Le 9 avril 1990, Matthews appela l'ami dont la ligne téléphonique était surveillée. Les agents se préparaient à passer à l'attaque si la femme parvenait à le garder assez longtemps au téléphone. Cette fois-ci, il l'appelait d'une cabine téléphonique. Les agents sur place n'attendaient que l'ordre de passer à l'action pendant que les précieuses secondes s'écoulaient. La femme demanda à Matthews à quel endroit il se trouvait, mais manifestement, il avait hâte de raccrocher. Malgré son empressement, les agents eurent le temps de retracer l'appel. Il fallait arrêter Matthews avant qu'il ne disparaisse à nouveau.
Notre équipe est arrivée à découvrir l'endroit d'où provenait l'appel. C'était à une distance de 10 ou 15 minutes. De fait, notre homme était encore en ligne lorsque les agents sont arrivés.
Après presque 3 ans de poursuite, les enquêteurs arrêtèrent enfin Jeff Matthews sans incident. Pour s'éviter la peine de mort, il plaida coupable d'avoir dirigé une organisation criminelle qui commettait des meurtres si son intérêt était en jeu, d'être un narcotrafiquant et d'avoir fait sauter à la bombe un bureau du gouvernement fédéral. Le 31 juillet 1990, Matthews demanda à parler à des agents du FBI et de la brigade des stupéfiants. Il leur dit que s'il ne passait pas immédiatement à l'action, d'autres innocents seraient tués. L'inculpé possédait un espace d'entreposage à Gainesville rempli d'explosifs ainsi qu'une mini-fourgonnette piégée. On alerta immédiatement l'escouade anti-bombe. Comme Matthews l'avait décrit, les agents trouvèrent une mini-fourgonnette rouge garée dans un espace d'entreposage prête à exploser. L'escouade anti-bombe fit évacuer le secteur. Une fois les bombes désamorcées, les enquêteurs retirèrent rapidement la douzaine de tubes explosifs trouvés dans le véhicule. Ils trouvèrent également de nombreuses armes. Un AR-15, un MAC-10, un MAC-11, un pistolet de calibre 22 et un silencieux.
Il y avait des masques de caoutchouc, des masques d'Halloween, des vestes de policiers, d'autres bombes et des matériaux. Il y avait aussi des manuels de fabrication de bombes et d'objets piégés, des fusibles et de l'équipement divers, notamment des morceaux de tuyaux, des minuteries, etc.
Matthews dit également aux enquêteurs où il trouverait le corps de l'entrepreneur tué dans la pizzeria plus de 2 ans auparavant, même s'il ajouta que c'était le tueur à gages et non lui qui avait commis ce meurtre. Selon lui, les deux hommes avaient caché le corps dans le congélateur de la maison qu'il louait avant d'aller enterrer l'électroménager et son contenu. C'était à cette maison que les enquêteurs avaient trouvé le mot écrit de Matthews. Ils ne tardèrent pas à retrouver le congélateur et le corps exactement à l'endroit décrit par le meurtrier. Pour cet homicide, Matthews plaide à coupable de complicité.
Les trafiquants de drogue ne se lancent pas tous en affaires en tuant des gens.
Détective Tom Continos.
De fait, la plupart d'entre eux ne tuent personne. Mais Jeff était un individu très violent et à l'esprit très organisé. Cela le rendait dangereux et encore plus difficile à capturer.
Le 1er octobre 1990, Jeff Matthews, 26 ans, a été condamné à 100 ans d'emprisonnement sans possibilité de liberté conditionnelle. Il ne pourra plus jamais terroriser la population de Fort Myers Beach.
Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures. Adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Lisa Fett et Marc Marabella. Il a été réalisé par Stuart Taylor. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Kosiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun. Assistée de Marie Agassin. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Olivier Citruc.